Vous écoutez, on lit pour vous.
Peut-on encadrer les influenceurs? Un texte de Nathaël Morissette, paru le 10 février 2024 dans la presse. Les créateurs de contenu, communément appelés influenceurs, auront maintenant leur association, dont la mise sur pied pourrait aider à rétablir une réputation parfois malmenée. Si le milieu salue l'initiative, il y a toutefois un certain scepticisme quant au poids réel d'un tel regroupement. Une fête bien arrosée dans un avion où, en pleine pandémie, les règles sanitaires sont bafouées, la promotion d'un produit pour blanchir les dents interdit au pays, les frasques de certains influenceurs d'ici et d'ailleurs ont nui à la réputation de la jeune profession. Afin de lui donner ses lettres de noblesse et mieux encadrer ceux qui la pratiquent, l'Association des créatrices et créateurs de contenu du Québec, ACREA, verra officiellement le jour en mai 2024. Un guide des bonnes pratiques, des formations portant sur les erreurs à ne pas commettre lorsque l'on colle son nom à une marque ou sur les règles à suivre quand vient le temps de remplir sa déclaration de revenus sont autant d'initiatives que l'ACREA, qui verra le jour à l'occasion du deuxième gala Influence Création, veut mettre en place. L'objectif n'est pas de devenir la police des créateurs de contenu, lance toutefois d'emblée la cofondatrice et présidente du conseil d'administration, Maude Belval. Mais c'est sûr qu'on veut donner aux créateurs les outils nécessaires pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions par rapport aux collaborations qu'ils vont choisir, explique-t-elle au bout du fil. Une image à redorer. Questionnée à plusieurs reprises sur les différentes frasques qui ont entaché la réputation des influenceurs, les représentants de la future association ont chaque fois martelé qu'il fallait faire sortir le positif. On veut vraiment encourager la relève des créations de contenu et on aspire à élever cette profession-là. Même si des événements malheureux n'étaient pas arrivés, probablement que notre association aurait vu le jour, nous dit Maude Belval. Un bon créateur de contenu, c'est quelqu'un qui va avoir un impact social positif, ajoute pour sa part Anthony Tran, créateur de contenu et autre cofondateur de l'ACREA. Il s'est par ailleurs lui-même mis en scène à bord d'un vol de Sunwing, où l'on pouvait lire des messages tels que « Moi avec Sunwing pour redorer l'image des influenceurs »,« Pas de party, juste se reposer » ou encore « Rien d'illégal, juste du thé ». Ces publications faisaient en quelque sorte contrepoids au fameux vol du transporteur en direction du Mexique qui, en pleine pandémie, avait à son bord un groupe d'influenceurs faisant la fête en faisant abstraction de plusieurs règles sanitaires alors en vigueur. L'idée, c'est de dire que de la bonne création de contenu, ça existe. Il y a plus de positifs que de négatifs, affirme Anthony Tran. Anthony Tran vit de ce métier depuis 2 ans en partageant avec sa communauté 16 000 abonnés sur Instagram et 280 000 sur TikTok, ses critiques de restaurants ou les préparatifs entourant son mariage à venir. Vous écoutez « Peut-on encadrer les influenceurs ?» un texte de Nathaël Morissette, paru le 10 février 2024 dans la presse. N'est pas un bon créateur qui veut, croit toutefois Léonie Pelletier, ex-influenceuse et fondatrice de Oui, l'agence. Présentement, tout le monde peut se proclamer influenceur. C'est à nous, en tant qu'agence, de bien faire notre travail pour savoir qui a une qualité d'abonné, par exemple, nous dit-elle. Le rôle de Léonie Pelletier est d'engager des créateurs de contenu pour ses clients parmi lesquels figurent Provigo, Maison Ladore et Jean-Paul Fortin. Agent d'une vingtaine de créateurs de contenu, Pierre-Olivier Baudouin, fondateur de l'agence Muse Influence, qui a lui également été dans le métier, estime lui aussi qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie. On ne peut pas comparer mes artistes qui gagnent très bien leur vie et qui travaillent aussi à la radio et à la télé avec ceux qui ont des abonnés et que l'on voit dans les vols de Sunwing. Il faut distinguer les deux. On ne peut pas comparer une Marianne Plaisance, artiste visuelle et animatrice qui a des millions d'abonnés, qui fait de la création, à une fille à bord du vol de Sunwing dont on ne connaît même pas le nom, renchérit-il. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Une fois l'association bien en place, Anthony Tran croit que ses représentants n'hésiteront pas à dénoncer publiquement des situations où des gens s'improviseraient influenceurs et commettraient des bourdes. Une association indispensable? Malgré tout, autant Léonie Pelletier que Pierre-Olivier Baudouin expriment un certain scepticisme par rapport à l'ACREA et les pouvoirs réels qu'elle pourra exercer. « Je laisse la chance aux coureurs », assure M. Baudouin. « Pour moi, personnellement, ça ne change pas grand-chose. Ça va peut-être donner des outils aux jeunes qui commencent pour apprendre les règles du métier. » L'intention, je pense qu'elle est bonne, tient-il à ajouter. Après ça, il faut faire ses preuves. Tu ne lances pas une association sur le coin d'une table. L'idée d'une association est bonne, affirme également Léonie Pelletier. Je pense que c'est une nécessité. Mais j'ai une petite réserve, dit-elle. Madame Pelletier se questionne en fait sur les pouvoirs que pourrait avoir la CREA. Elle croit néanmoins que le métier doit être respecté, notamment en ce qui concerne la rémunération. En ce sens, ce sont des agences comme la sienne qui doivent jouer ce rôle, selon elle. Il y a vraiment des normes dans l'industrie, basées sur le nombre d'abonnés, la qualité du contenu, le type de contenu, publication, story. Résultat, certains influenceurs peuvent vivre de leur profession en gagnant 50 000, 100 000, 150 000 $ par année. Madame Pelletier se porte également garante des influenceurs qu'elle choisit pour ses clients. Elle s'assure de travailler avec les bonnes personnes et de ne pas faire affaire avec des gens qui auraient déjà tenu des propos diffamatoires ou racistes, par exemple. Définir la profession. Si tous s'entendent, pour dire que la profession de créateur de contenu ou d'influenceur reste encore à définir, Camille Allouin, professeur agrégé en relations publiques à l'UQAM et auteur de l'étude « Affects numériques et travailleurs du clic », croit qu'un encadrement est souhaitable et estime que la CREA pourrait jouer ce rôle. Avant, ça ne reposait que sur des plateformes. Ce n'était qu'Instagram ou Facebook, qui décidaient ce que l'on pouvait faire ou pas, ce que l'on pouvait vendre ou pas. Et là, on ouvre la porte. On a une entité avec laquelle dialoguer. Est-ce qu'elle est représentative? Est-ce qu'elle est vraiment pertinente? Ça sera au milieu lui-même de décider. Le professeur Allouin voit de plus en plus de jeunes qui aspirent à devenir un jour créateurs de contenu, à en faire leur métier. Donc, soit on peut encore laisser cette profession totalement entre les mains des plateformes, des agences, soit on essaie de la délimiter. Dit-on influenceur ou créateur de contenu? Le terme influenceur a une connotation plus péjorative, reconnaissent plusieurs représentants de l'industrie qui préfèrent utiliser le mot créateur. Or, les deux termes n'ont pas tout à fait la même signification, estime Pierre-Olivier Baudouin, fondateur de l'agence MuseInfluence. Un influenceur, c'est quelqu'un qui a une communauté qui va pouvoir influencer les décisions des gens. Que tu sois une personnalité publique, un sportif, un animateur ou un créateur de contenu, tu es un influenceur, explique-t-il. Les créateurs de contenu sont des gens qui vont créer sur différentes plateformes du contenu humoristique, social, beauté, des propositions famille. C'était « Peut-on encadrer les influenceurs ?» un texte de Nathaël Morissette, paru le 10 février 2024 dans La Presse.
« de porter un tablier plombé lors d'un examen par rayon X. Un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 9 février 2024 dans Le Devoir. On le porte lorsqu'on subit une radiographie chez le dentiste ou à l'hôpital. Le tablier plombé est censé protéger les organes reproducteurs et le fœtus des rayons X. Mais voilà, ces bénéfices sont négligeables, voire nuls selon les scientifiques. 8 ordres professionnels québécois, dont ceux des technologues en imagerie médicale, des dentistes et des médecins, demandent donc à Québec de modifier la législation afin de retirer l'obligation de le mettre aux patients. Il y a consensus scientifique. Le tablier plombé ne sert à rien, dit Vincent Dubé, président de l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec. OTIMROEPMQ. L'utilisation du tablier plombé est recommandée depuis une cinquantaine d'années pour les patients qui subissent une radiographie dans le but de protéger les gonades, ovaires et testicules, et le fœtus. À l'origine, on craignait que le rayonnement X ait des conséquences sur les cellules reproductrices et entraîne des mutations génétiques. Les doses de radiation étaient alors beaucoup plus élevées qu'aujourd'hui. Depuis, son port est devenu un rituel quasi sacré lors de radiographies chez le dentiste ou à l'hôpital. Mais les recherches n'en ont pas démontré la nécessité, indique Richard Tremblay, vice-président à la physique médicale à l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec, et consultant pour l'Ordre des dentistes du Québec dans ce dossier. Malgré les doses qu'on avait il y a 50 ans, il y a eu des études épidémiologiques qui ont été faites et, avec l'utilisation du tablier plombé, on n'a jamais constaté d'effet de protection sur le fœtus ou les gonades, explique-t-il. L'Association américaine des physiciens en médecine a recommandé, dès 2019, l'abandon du tablier plombé. Plusieurs organismes et plusieurs regroupements lui ont ensuite emboîté le pas, dont la Food and Drug Administration, FDA, en 2023. La semaine dernière, l'Association dentaire américaine a aussi décrété que le tablier plombé n'était plus nécessaire. Au Canada, le gouvernement fédéral ne recommande plus, depuis 2022, son port obligatoire lors d'examens radiographiques dentaires de routine. La loi québécoise l'exige toutefois toujours pour les patients, tant chez le dentiste qu'à l'hôpital. L'OTIMROEPMQ et 7 ordres professionnels, médecins, infirmières, chiropraticiens, podiatres, hygiénistes dentaires, dentistes et ingénieurs, ont donc récemment entrepris des démarches auprès de Québec afin de faire modifier le règlement d'application de la loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et tissus. Ils se sont inscrits au registre des lobbyistes du Québec. La loi n'est pas jeune et il y a un décalage avec les évidences scientifiques, dit Véronique Deschênes, directrice de la formation continue à l'Ordre des dentistes du Québec. Au fond, ne serait-il pas plus simple de le garder? Ça semble être un non-enjeu, parce qu'on se dit, si le tablier ne sert à rien, on peut bien le laisser, et c'est pas grave, reconnaît Vincent Dubé. Mais y recourir n'est pas sans conséquence, selon lui. On a un bon pourcentage de reprises d'examens qui sont dues à la position du tablier plombé dans le champ d'exposition, particulièrement en pédiatrie, fait-il valoir. Or, lorsqu'un patient repasse une radiographie, il s'expose à des radiations supplémentaires. Les doses sont très minimes en ce moment. Ce qui nous pousse à l'action, ce n'est pas parce qu'on a identifié un danger et qu'on est dans des doses qui sont trop élevées pour la population. Mais le dossier de la pertinence des examens radiologiques est toujours d'actualité, souligne-t-il. Faux sentiment de sécurité. Le tablier plombé crée aussi un faux sentiment de sécurité, ce qui a des impacts sur la pertinence des examens diagnostiques, estime Vincent Dubé. Des fois, c'est banalisé de demander des examens radiologiques, parce qu'on se dit que de toute façon, chez une femme enceinte, par exemple, il va y avoir un tablier plombé qui couvre le fœtus, donc il est protégé, ce qui n'est pas le cas du tout. Le président de l'OTIMROEPMQ tient à rassurer les femmes enceintes. Les radiations auxquelles le fœtus est exposé sont négligeables lors d'une radiographie des poumons, par exemple. Le faisceau direct n'est pas sur le fœtus, précise-t-il. La dose que le fœtus reçoit, c'est par le rayonnement diffusé à l'intérieur du corps. Et ça, il n'y a aucun moyen de l'éviter. C'est un peu comme des ricochets de rayons X. C'est exactement pour ça que le tablier ne sert à rien, parce que ça se passe à l'intérieur. Même si les doses reçues par le fœtus sont négligeables ou minimes, sauf dans le cas d'une tomodensitométrie, où elles sont jugées modérées, il vaut toujours mieux éviter les examens radiologiques non nécessaires, précise-t-il. Question de réduire au maximum l'accumulation des doses. Pour Vincent Dubé, c'est aussi une question d'honnêteté scientifique envers la population. Les citoyens ont le droit de savoir qu'ils ne sont pas protégés comme ils le pensent avec le tablier plombé. Ils peuvent poser des questions sur la fréquence des examens. On veut de plus en plus des patients partenaires qui sont impliqués dans leurs soins, leurs services, rappelle-t-il. C'est la même chose en imagerie médicale. On veut que le patient soit capable d'avoir cette réflexion et qu'il puisse dire « Est-ce vraiment pertinent? » Si Québec retire de la loi le port obligatoire du tablier plombé, les ordres professionnels mèneront des campagnes d'information afin d'aviser le public du changement. Ceux qui voudront malgré tout le conserver pourront le faire, assure M. Dubé. Les professionnels qui effectuent les radiographies, eux, continueront de le revêtir lorsque nécessaire. Tout comme le parent qui accompagne un enfant lors de l'examen. La personne qui subit le rayon X a sa dose de radiation, mais a un bénéfice au bout du compte. L'accompagnateur n'a pas de bénéfice. On peut lui épargner la dose, explique Vincent Dubé. C'était « Inutile de porter un tablier plombé lors d'un examen par rayon X », un texte de Marie-Ève Cousineau paru le 9 février 2024 dans Le Devoir.
Les prisons pour femmes, une fausse solution, un texte de Jean-François Nadeau paru le 19 février 2024 dans Le Devoir. À quoi cela sert-il d'emprisonner des femmes pour des crimes mineurs, au Québec comme ailleurs? Les études scientifiques tendent à conclure que le profil de criminalisation des femmes justifie rarement leur emprisonnement, écrit Joanne Martel, professeure retraitée en criminologie. Elle a récemment fait paraître « Femmes incarcérées », un ouvrage dans lequel elle dénonce l'inertie institutionnelle dans l'emprisonnement au Canada et au Québec. En entrevue, Joanne Martel n'en démord pas. « Je me suis rendu compte que, depuis la fin du 19e siècle, rien n'avait vraiment changé. Les conditions de vie pour ces femmes dans les prisons sont restées, à vrai dire, à peu près inchangées. Pourtant, elles sont dénoncées à intervalles réguliers. » Au Québec, des peines de 2 ans moins un jour sont imposées. Les femmes qui les subissent ont en commun d'être pratiquement toutes dans des situations sociales précaires. Leurs sentences ont pour conséquence de les déstabiliser encore davantage, selon la criminologue. au moins les trois quarts de ces peines sont consécutives à ce que la criminologie appelle des crimes de survie. Le vol à l'étalage, la prostitution, de petits larcins, dont des fraudes à l'assistance sociale. Ces femmes tendent à se voir condamnées pour des crimes de survie. Leurs actions criminalisées, expose Joanne Martel, découlent directement de leur pauvreté, d'une faible scolarisation, de leur ascendance autochtone et de situations de vie impossibles à soutenir, ce qui implique par exemple de la violence familiale, des problèmes de toxicomanie, de troubles de santé mentale. Ces conditions d'existence très défavorables entraînent une exclusion qui se traduit par de l'itinérance, des hospitalisations psychiatriques, des prestations d'aide sociale. Au bout du compte, est-ce que les peines d'emprisonnement constituent une façon de changer ces conditions? Non, affirme Joanne Martel. Rien ne change. Depuis plus de 100 ans, ce sont, pour l'écrasante majorité, des femmes dans un état de vulnérabilité très grand qui se retrouvent en prison. Elles ont connu la pauvreté, des violences sexuelles, l'inceste, etc. Puis, elles sont emprisonnées. Qu'est-ce qui va changer? On les punit parce qu'elles sont en état de vulnérabilité plutôt que de les aider à s'en sortir. Résultat, elles sortent de prison avec encore moins de repères sociaux. Et personne n'est plus avancé finalement. Sans compter les coûts de pareille gestion de la marginalisation de ces femmes. Quand elles sortent de prison, le système voudrait qu'elles se trouvent un emploi. Elles, leur priorité, c'est d'ordinaire de retrouver leurs enfants laissés aux services sociaux. La prison handicape ces femmes. Elles sortent de là avec encore moins de repères et moins d'aptitudes sociales. Les habiletés sociales, elles les perdent en prison. Elles sortent encore plus poquées qu'avant. Comme on dit souvent, plutôt que la prison, ces femmes auraient besoin d'appartements supervisés, d'organismes de réinsertion sociale, d'intégration, de protection. La probation avec une surveillance communautaire pour qu'elles ne perdent pas contact est nécessaire. Mais ces services sociaux, laissés entre les mains d'organismes sous-financés, souvent gérés par des bénévoles, ne sont pas priorisés. C'est plutôt l'institution de la prison qui est financée à grands coups par les pouvoirs publics. Un mauvais sentier. Nous continuons comme avant. On dirait que nous sommes incapables de nous sortir d'une vision institutionnelle de la prison. C'est ce que, dans mon livre, j'appelle le sentier. Qu'est-ce à dire? Nous sommes toujours dépendants, comme société, du chemin que nous avons parcouru. Quand quelque chose ne fonctionne pas, nous avons tendance à regarder derrière les traces que nous avons laissées dans notre sentier pour tenter de trouver une solution, pour savoir où nos pas conduisent. Quand les prisons ne fonctionnent pas, on regarde ce qui a été fait avant. La réponse qu'on trouve alors est toujours la même. On avait construit une nouvelle prison. Donc, on pense que construire encore une nouvelle prison va constituer une solution. Selon Joanne Martel, il conviendrait de s'autoriser à regarder enfin de côté et autrement. Il faut se rappeler que la justice pénale a choisi de prioriser la punition comme mode de réparation en société. Ce qui signifie revanche et vengeance. C'est l'idée de rendre justice qui a été priorisée. Est-ce que c'est forcément ce qu'il y a de plus efficace pour améliorer la société? Quantité de données montrent que non. Nous pourrions penser à une justice plus réparatrice. La prison handicape ces femmes. Elles sortent de là avec encore moins de repères et moins d'aptitudes sociales. Les habiletés sociales, elles les perdent en prison, affirme Joanne Martel. La punition comme priorité est dépassée, explique la criminologue. C'est une vieille façon de penser. Il y avait d'autres options possibles depuis bien longtemps. Il y en a encore. Qu'est-ce que ça donne de punir la pauvreté et le malheur? Plus de pauvreté et de malheur. Les gens devraient payer, comme on dit. Mais est-ce qu'en les faisant payer de la sorte, cela change quelque chose de profond? Chose certaine, Joanne Martel ne le croit pas. Nous punissons plus que nous réparons. Ce n'est pas pour rien que les conditions des prisonnières demeurent exécrables. Elles sont dénoncées régulièrement. C'était le cas pour la prison Tanguay. C'est encore le cas à l'Institut Leclerc. La solution que nous avons trouvée, construire une nouvelle prison. Les coûts risquent d'être énormes. On nous promet désormais de nouveaux moyens techniques pour surveiller les femmes. C'est toujours la même chose qui se répète. Chaque fois, on dit que c'est nouveau, mais les principes demeurent les mêmes et ils ne fonctionnent pas. Remettre en question la prison. Le système se montre incapable de se remettre en question, pense Joanne Martel. Plutôt que de regarder de manière latérale, plutôt que de faire un pas de côté, il est entendu d'avance qu'il faut poursuivre le même chemin, continuer d'avancer sur le même sentier, selon des modalités qu'on voudrait se faire croire, renouveler. C'est pour ça qu'on continue d'incarcérer, et c'est pour ça que les conditions de vie de ces femmes continuent d'être exécrables. On a verrouillé notre conception face à ce que nous appelons la délinquance. Le chemin de la prison est devenu dominant. Ces recherches montrent que, dans une majorité de cas, les femmes incarcérées sont d'abord elles-mêmes des victimes. Elles portent en elles une vive détresse qui les conduit à des formes d'assujettissement et de marginalisation qui participent à leur criminalisation, dans une spirale que l'incarcération n'enraye pas, au contraire. Comment se fait-il qu'au XXIe siècle, après plus de 100 ans de dénonciation récurrente des conditions de vie désastreuses au sein des prisons destinées aux femmes au Canada, les femmes québécoises subissent encore des conditions de détention aussi désolantes que celles qui ont été récemment documentées à la prison Leclerc? L'idée que la prison, l'enfermement pour les femmes accusées de crimes mineurs est une norme sociale à maintenir va à l'encontre de montagnes d'études, estime l'universitaire. Joanne Martel constate avec regret une augmentation des taux d'incarcération des femmes et un ciblage de groupes raciaux. Justement, il y aura plus de places dans la nouvelle prison pour femmes que Québec entend construire. Je peux vous assurer que ces places, on va s'empresser de les remplir et que rien ne sera changé. C'était « Les prisons pour femmes, une fausse solution », un texte de Jean-François Nadeau paru le 19 février 2024 dans Le Devoir.